Bonsoir. Mieux gérer et prévenir les pannes, renforcer l'information aux voyageurs. Ces exemples de recommandations se trouvent dans le rapport de la SNCF rendu public après la panne géante Gare Montparnasse. Vous vous en souvenez, c'était fin juillet, en plein chassé-croisé. Au moins 70 000 voyageurs ont été concernés. La SNCF saura-t-elle tirer toutes les conséquences de cet incident? Et vous, redoutez-vous de prendre le train? Quels sont vos droits en tant que voyageur? Savez-vous à qui vous adresser? Allez-vous préférer l'avion, la voiture, le bus?
Noé Da Silva, le téléphone sonne.
Retard, annulation, quels sont les droits des voyageurs? Vos questions par mail sur la page du téléphone sonne sur franceinter.fr avec le mot dièse Telson et bien sûr au 01 45 24 7000 comme le fait François. Bonsoir François, bienvenue sur France Inter. François, donc, bonsoir.
Oui, je vous m'entendez?
Parfaitement.
Bon, merci de prendre mon témoignage, puisque moi, s'il s'agit d'un témoignage, à propos de 4 ou 5 déplacements que j'ai faits au mois de juin, fin mai, pendant un mois et demi, sur la ligne Marseille-Toulouse, et où j'ai eu à subir de très nombreux retards, notamment il y a eu 4 pannes de locomotive, etc. Mais je voudrais plutôt centrer mon témoignage ce soir sur la difficulté d'obtenir des informations de la SNCF, et en particulier lors d'un le premier aller-retour fin mai vers Marseille, où j'ai réservé un aller sur Internet, mais impossible de réserver un retour. J'avais un message qui me disait « ce retour n'est pas compatible avec votre aller ». Donc j'ai essayé tous les moyens, même de prendre un deuxième aller simple dans l'autre sens, mais ça marchait pas. Donc j'ai regardé d'abord sur le service de chat, mais comme d'habitude, le message était « aucun conseiller n'est disponible ». Et j'ai appelé un numéro qui figurait sur le site SNCF, et j'ai eu une personne qui n'avait pas d'explication à me donner. Je m'en suis étonné. Elle m'a appris qu'elle n'était pas employée de la SNCF, mais d'une agence de réservation, ce que j'ai trouvé incroyable. Alors, elle m'a donné le numéro de téléphone du TER PACA, c'est-à-dire donc Provence-Alpes-Côte d'Azur en gare de Marseille. Et là, on m'a certifié que le trafic était normal le 25 mai sur la ligne Marseille-Toulouse. Donc quand je suis parti à Marseille, à la gare de Toulouse, comme le train avait 1h30 de retard, J'ai eu le temps de regarder. Bon, les guichets, c'était impossible de les approcher. Donc sur les machines à acheter les billets, j'ai voulu regarder s'il y avait des retours possibles. Et là, j'ai trouvé que des TGV, alors que d'habitude, c'est pas des TGV qui assurent ce trajet, qui étaient tous complets et qui passaient par Valence, par Paris, par Lyon, enfin des trucs incroyables, avec des prix de billets extravagants. Et tous ces TGV étaient affichés complets. Mais par la suite, je découvrirai que c'est des TGV qui circuleront pas, puisqu'il n'y avait aucun train qui circulera. Alors quand je suis arrivé à Marseille, au guichet des renseignements, la personne d'accueil m'assure que le trafic est normal le 25 mai. Alors j'insiste, elle me répond, écoutez, le 25 mai, c'est loin, on était le 22 mai. Hein. Et comme j'ai encore insisté, elle est allée voir sa responsable, qui est revenue un quart d'heure après, pour me dire que du 25 au 28 mai, il y avait des travaux et que donc aucun train ne circulait de Montpellier à Toulouse et qu'il n'était pas prévu de bus de remplacement.
Ça devient compliqué là pour vous, c'est un véritable parcours du combattant. Vous dénoncez donc le manque d'informations. François, je vous présente les invités qui sont là pour vous répondre et pour vous aider ce soir au téléphone sonne. Christian Broucaret, porte-parole de la FNOT, c'est la Fédération Nationale des Associations des Usagers des Transports. Bonsoir.
Bonsoir.
Khalid Elwardi, secrétaire général de la médiation Tourisme Voyage. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous nous expliquerez exactement quel est votre rôle. Et Yves Crozet, économiste des transports, prof à Sciences Po Lyon, ex-président du laboratoire Économie et Transport. Vous êtes à Lyon, en duplex, dans le bureau de France Inter. Bonsoir. Et merci d'être avec nous.
Bonsoir.
Alors, première question sur l'information, puisque c'est ce qui a notamment manqué, si on prend notre point de départ là dans l'actualité, c'est-à-dire cette énorme pagaille, cafouillage à la gare Montparnasse. Christian Broucaret de la Fédération Nationale des Associations des Usagers de Transport, est-ce que c'est une chose qui est courante, ce qui est arrivé à François?
C'est malheureusement une situation kafkaïenne qui est assez habituelle. On le regrette, nous, en tant qu'associatif. Ça a été pointé, de toute façon, sur le rapport Robustesse qui est sorti il y a 15 jours avec une dizaine d'experts, dont le président de la FNOT, Bruno Gazot, et
puis un les mot associations. Sur ce rapport, qu'est-ce que c'est le rapport
Alors,
Robustesse?
C'est quelque chose qui avait été courageusement demandé par le président des SNCF Mobilité et le président des SNCF Réseau, pas de nom, parce que c'est des fonctions, ça n'a strictement aucune espèce d'importance. Et donc, ça, il avait demandé à des experts indépendants de voir un peu ce qui n'allait pas dans la grande maison SNCF, que ce soit réseau et mobilité. Ce rapport est sorti, alors vous me direz, c'est un rapport de plus, mais il est sorti 15 jours, malheureusement, avant la gare, avant les incidents de la gare Montparnasse. Bon, la SNCF n'avait pas eu le temps d'en tirer les enseignements, c'est clair, mais ce qu'il faut noter aussi, c'est que très courageusement, la SNCF, quand elle a fait le débriefing de la panne de la gare Montparnasse, elle est arrivée globalement à la même situation. Donc, maintenant, la situation, elle est claire. Il faut que la SNCF en tire les conséquences.
Notamment sur le manque d'informations qui arrive quand il y a une énorme pagaille comme celle de la gare Montparnasse. Mais c'est quelque chose de courant, comme François, qu'on a baladé d'un service à un autre.
Oui, et puis le témoignage de votre auditeur est clair. François, parce qu'on oui. on voit bien qu'il y a différents canaux d'information. Il y a aussi des services qui ne se parlent pas, parce que je peux vous assurer que les travaux, à part sur un incident, ils sont prévus très très à l'avance. Et c'est dommage que SNCF Mobilité ne le sache pas. Puis quand on leur envoie de TER, alors que a priori c'était un intercité ou un TGV, c'est quand même assez étrange.
Khalid Elwardi, secrétaire général de la médiation tourisme voyage, est-ce que vous êtes saisi sur ce genre de reproche, c'est-à-dire le manque d'information?
Alors effectivement, d'autant que la première question de notre auditeur, ça a été un manque d'information de la part du prestataire qui lui a vendu le billet. Et c'est une question intéressante dans la mesure où effectivement certains billets SNCF, donc le transporteur, peuvent être achetés via l'agence de voyage SNCF. Nous sommes en face de deux opérateurs différents. Effectivement, une agence de voyage et un transporteur.
Ça complique les choses.
Alors, ça peut, dans certains cas, compliquer les choses, mais en tout état de cause, cette agence de voyage SNCF.com, en l'occurrence, a elle-même une obligation d'information en tant que vendeur du billet.
Alors, on le dit parce que vous êtes là jusqu'à 20h avec nous, vous êtes secrétaire général de la médiation tourisme voyage. En un mot, vous vous adressez à tout le monde, c'est-à-dire que tout le monde peut vous saisir, que ce soit aussi bien pour le train que pour l'avion, que pour le bus.
Exactement, on est compétent pour l'ensemble des modes de transport, pas pour l'ensemble des entreprises du secteur, mais pour l'ensemble des modes de transport et également pour tout ce qui est litige relevant des agences de voyage, justement.
La précision, c'est qu'il faut d'abord avoir saisi le service
c'est une condition
des consommateurs de l'entreprise qui vous a transporté ou l'agence de voyage. Et s'il y a une réponse qui ne vous satisfait pas, on va vers vous.
Ou une absence de réponse.
Ou absence de réponse. À 19h24, au téléphone sonne, nous accueillons Marc. Bonsoir Marc.
Oui, bonsoir à tous. Et puis je renouvelle mes félicitations à l'équipe de France Inter pour ces excellentes émissions.
Merci.
Alors, je voulais intervenir, c'est pour déjà, c'est très instructif d'avoir entendu l'intervention du premier auditeur ainsi que vos réponses, parce que effectivement on constate qu'il y a des services qui ne se parlent pas, et je constate en tant que voyageur occasionnel m'intéressant au domaine des transports, que effectivement les cloisonnements, il y a un cloisonnement dans les activités de la SNCF, donc entre le Transilien, les intercités, les TGV, ce sont vraiment des mondes à part. Alors effectivement, quand il y a des trajets qu'on effectue en utilisant chacun de ces différents réseaux ou modes de transport au sein de la SNCF, ça devient compliqué d'avoir les informations. Puis en plus de ça, les événements de Montparnasse montrent que pour délivrer une bonne information, et si possible pas trop longue à attendre, ben c'est bien, c'est le souhait des usagers, seulement encore faut-il avoir trouvé les raisons du dysfonctionnement. Or là, il semble que c'était très compliqué, puisque le week-end suivant, là, on avait isolé la gare pour enfin trouver le coupable de la panne. Et je me disais que puisqu'il fallait d'abord, fallait peut-être que la SNCF fasse davantage porter ses efforts sur les détections de panne et les détections de... ce qui me vient en tête, c'est surtout quand il y a des trains qui sont en rade, oui. Entre guillemets, dans rage campagne, au lieu de faire attendre les voyageurs pendant des heures et des heures dans des rames surchauffées, il faudrait peut-être créer des forces d'intervention rapides. Alors évidemment, ça nécessiterait du personnel supplémentaire et des moyens matériels supplémentaires sous forme de réseaux d'alerte, et puis aussi de...
Pour faire venir du nouveau matériel et du nouveau personnel, effectivement. Ça, c'est l'entreprise idéale que vous nous présentez peut-être, Marc. Yves Crozat est économiste des transports, vous êtes en duplex de Lyon. Est-ce que la description de Marc Danemark et son souhait de son rêve de SNCF, on en est loin.
Alors, d'une part, il a raison. Le problème de la SNCF, c'est bien expliqué dans le rapport sur la robustesse, c'est qu'elle fonctionne en silo, les services ne discutent pas. Et donc, précisons bien que la robustesse telle qu'elle a défini le rapport, c'est la capacité à réaliser les services promis aux clients. Et la première difficulté, énoncée dans le rapport, c'est que la SNCF promet des services qu'elle est pratiquement sûre de ne pas pouvoir assurer.
C'est-à-dire?
Parce qu'on va programmer trop de trains, ou des trains trop nombreux, et donc on sait que ça va générer des retards, ou trop de trains par rapport... Il suffit qu'il y en ait un qui soit en panne pour qu'une machine soit manquante, et qu'à partir de là, tout le système va se gripper. Donc la première chose, c'est d'abord de ne pas promettre ce qu'on ne peut pas tenir. Et c'est pour cela, par exemple, que sur certaines lignes à Paris, certains transiliens, par exemple, aujourd'hui, on a réduit le nombre de trains qui circulent, parce que finalement, en réduisant le nombre de trains affichés au programme, finalement, le service est de meilleure qualité. Donc, il y a tout un travail en interne, d'abord en amont de l'exploitation, pour faire quelque chose de fiable. Ensuite, en aval, effectivement, il y a tout un problème d'information. Ce qui était intéressant à votre premier auditeur, c'est qu'il avait eu la bonne information sur le site Internet. Mmh. On ne voulait pas lui vendre de train pour son retour. Donc, le site Internet savait qu'il n'y avait pas de train. Mais pas d'explication sur le fait qu'il y avait des travaux et que la ligne était fermée pendant 3 jours, pas d'explication sur le fait qu'il n'y avait pas d'autocar, et le personnel sur le terrain, lui, ne le savait pas, 3 jours avant. Donc on voit bien que c'est essentiellement un problème de communication entre les services avant d'être un problème de communication avec les voyageurs.
Mais Yves Crozet, c'est difficile de résoudre ce problème de communication ?
Oui, c'est difficile, et c'est la raison pour laquelle M. Pépi et M. Jantet ont demandé ce rapport sur la robustesse à des experts français et internationaux, parce qu'ils avaient besoin d'y voir clair. Et la réponse du rapport, sans être méchante, est quand même assez terrible, en expliquant qu'il faut revoir beaucoup de choses sur la façon de communiquer entre les services et sur le fait, par exemple, de raisonner par axe. C'est-à-dire que si on va organiser les services pour que tout le monde fonctionne, par exemple, sur l'axe Paris-Bordeaux ou sur l'axe Paris-Lyon.
Mais Yves Crozet, ce que nous disait Marc il y a quelques secondes, c'est aussi quand il y a une panne matérielle et qu'on se retrouve perdu au milieu de nulle part, est-ce que la SNCF a les moyens de faire venir une nouvelle équipe, un nouveau train ?
Oui, il faut là-dessus relativiser. La SNCF, dans ces cas-là, a un service qui est du même niveau que ce qu'on peut observer en Allemagne, où ils ont eu récemment aussi des pannes de ce type-là. Moi-même, j'ai été bloqué dans des TGV entre Nice et Lyon il y a quelques temps. On m'a servi un plateau repas qui était stocké dans le TGV, un plateau un peu de style militaire, si vous voulez, avec des produits secs. Mais en tout cas, on nous a apporté des bouteilles d'eau et un plateau repas. Donc, la SNCF fait souvent ce qu'elle peut. Elle a anticipé un certain nombre de choses. Et je crois qu'il faut bien distinguer les cas très atypiques du type Gare Montparnasse, où là, vraiment, un système est en carafe pendant 1 ou 2 jours, de ce qui se passe quotidiennement pour les usagers quand vous avez 10, 15, 20% des trains qui sont en retard, 2, 3% des trains qui sont supprimés. Et ça, c'est le problème de qualité essentiel.
Christian Broucaret de la FNOT, la Fédération des usagers.
Oui. Je suis content que M. Croiset ait retrouvé sa jeunesse avec les plateaux militaires. C'est une plaisanterie parce que je connais un peu M. Croiset. Mais il y a aussi un autre problème, c'est que souvent, il n'y a pas une loco de disponible pour pousser un train. Les attelages ne sont pas les mêmes. Enfin, il y a quand même, c'est extrêmement compliqué des fois de sortir un train en ligne. Mais je vois à peu près sur toutes les compagnies. Mais entre-temps, bon, c'est bien les plateaux repas, c'est bien les bouteilles, mais il faut peut-être anticiper et avoir un peu plus de maintenance préventive, parce que c'est aussi ce qu'on peut sortir du rapport qui est sorti après l'accident de Montparnasse.
Nous allons maintenant au 01 45 24 7000 retrouver Didier. Bonsoir Didier, soyez le bienvenu, nous vous écoutons.
Oui, bonjour, vous m'entendez ?
Parfaitement bien.
Oui. Je vous téléphone d'Haute-Rive, donc, qui est à la frontière de l'Ariège, donc c'est la dernière petite ville avant l'Ariège. Donc, vous voyez qu'on est aux antipodes de Paris-Montparnasse. Mais en Ariège, on n'a pas besoin de panne ni de grand départ. Ce que vous décrivez comme étant le grand chaos, l'occasion du chassé-croisé en début de mois,
oui. C'est
ce que vivent les usagers au quotidien sur cette ligne Toulouse à Tour de Carole. Par exemple, c'est pas la ligne qui a l'apanage du chaos ferroviaire, hein. Train supprimé, train en retard, je dirais tout simplement train vanished. Et le tout sans le moins d'explications et des explications fantaisistes, du style le sel pour dégeler la voie a gelé, ce qui est quand même assez comique. Sans parler des grèves du lundi matin et du vendredi soir qui visaient les étudiants et les pensionnaires de notre contrée rurale, ou encore du train de 7h48 remplacé par un bus partant à 7h40.
Donc ça, c'est votre quotidien.
Véridique, je ne vous mens pas. À 30 km de Toulouse, nous sommes sur une section à voie unique sur laquelle les trains ne peuvent pas se croiser. Donc un train en retard le matin, c'est le bordel toute la journée. Quand mes enfants étaient au lycée des Arènes à Toulouse, je devais les emmener au minimum une fois par semaine. Donc perte de temps, usure de la voiture, argent, etc. On a fini par prendre une piole en ville, 300 euros par mois. Et toujours aucune explication, aucune excuse, aucun geste, notamment envers les abonnés qui de toute façon payent. Eux, ils ont payé en début de mois, donc on s'en fiche, ils ont payé. Sans parler du bilan carbone des gens qui vivent en Ariège et vont à Toulouse en voiture. Mais aussi, et c'est beaucoup plus grave, de ceux qui ont perdu leurs emplois. Je connais une assistante maternelle qui travaillait à quelques kilomètres d'Haute-Rive, à Vénerc, et qui ne pouvait pas se rendre de manière fiable à son travail, et ben elle a été licenciée. Voilà. Donc moi, si vous voulez, j'aurais envie de me dire, bon, ben, c'est chouette, quoi, parce que bientôt, on aura des navettes pour mars. Donc là, au moins, peut-être que ça fonctionnera.
Peut-être, peut-être. Hein. Khalid Elwardi, secrétaire général de la médiation Tourisme Voyage, qu'est-ce qu'on peut répondre à Didier qui raconte ça? C'est son quotidien, ça arrive toutes les semaines et il n'y a pas un seul petit geste, ce qu'il nous dit de la part de la SNCF.
Alors, les droits des passagers ferroviaires, d'ailleurs, comme dans les autres modes de transport, sont encadrés par une réglementation européenne. C'est-à-dire qu'en cas de retard, d'annulation, alors en dehors des raisons exonératoires spécifiques, les passagers, enfin les voyageurs, ont le droit à une indemnisation, à une prise en charge, on l'a évoqué tout à l'heure, mais notamment sur le cas des plateaux repas, donc à une indemnisation, à une prise en charge alimentaire le cas échéant, et éventuellement même à un hébergement si le retard nécessite la prise en charge du passager. Donc les voyageurs ont des droits en cas de retard ou d'annulation de
même
leur
mode de
transport.
Même comme ça, sur une petite ligne, sur le quotidien?
Alors, tout dépendra des types de voyages et tout dépendra de la durée du retard également. C'est des choses qu'il faudra prendre en considération au cas par cas.
Christian Broucaret de la FNOT.
Oui, pour être voisin de la région et connaître un peu la ligne, il est évident. Merci. Il est évident que c'est du TER et le TER, donc il y a aucune compensation.
Il y a deux poids deux mesures là.
Il y a deux poids deux mesures. Bon, mais écoutez, c'est comme ça. C'est extrêmement compliqué pour les usagers de comprendre. Mais je partage tout à fait ce qui a été dit. Des gens qui ont perdu leur emploi ou qui n'ont pas eu leur emploi parce que un jeune qui se présente devant un patron et qui dit je viens en train. À Bordeaux, on lui dit non, parce que on sait très bien qu'au moins une fois dans la semaine, il sera en retard. Et sur un TER, bon, le retard commence à partir de 6 minutes, mais ça peut aller beaucoup plus loin, parce que, autant en région parisienne, vous avez éventuellement un train 10 minutes ou un quart d'heure après, bon, ça va, c'est acceptable. Par contre, en province, des fois, le train suivant, il est une heure ou deux heures après.
Et c'est plus compliqué. Nous accueillons Jean-Bernard. Bonsoir, Jean-Bernard.
Oui, bonsoir.
Bienvenue dans le téléphone sonne, nous vous écoutons.
Oui, voilà, c'était pour narrer une petite expérience qui nous est arrivée avec mon épouse à la suite d'un séjour à Paris. Le 27 juin, donc, nous sommes rentrés par TGV nous sommes partis de notre location vers 9h du matin pour un train à 9h30. Et nous sommes arrivés chez nous, il était 21h à Toulouse, c'est-à-dire presque 12 heures après. Parce que le TGV a eu 4h, le train au total a eu 4h15 de retard. Nous avons dû changer en gare d'Agen pour prendre un express où pas mal de gens sont restés debout. Voilà. Donc, ce qui nous a été proposé par SNCF.com, c'est une indemnisation sur la base d'un report de 50% du tarif sur un prochain billet que nous ne prenons pas, puisque il n'est pas question de recommencer, même si ce n'est pas pour nous régulier. Voilà. Donc, je voulais savoir ce qu'en pensent
nos invités sont là pour vous répondre.
Et je vous remercie.
Merci
pour votre réponse.
À vous, Jean-Bernard. Khalid Elwardi, secrétaire général de la médiation Tourisme Voyage. Est-ce que 50% à valoir sur un prochain billet, c'est raisonnable?
Alors, le montant est le bon, la forme n'est pas la bonne. Effectivement, le règlement européen dont je parlais tout à l'heure prévoit que au-delà de 100, donc 2 heures de retard, le passager, s'il choisit donc de prendre le transport en question, a le droit à 50% du prix du billet. En remboursement, on peut lui faire un avoir à condition qu'il accepte. Le principe, c'est un remboursement.
Jean-Bernard, vous êtes toujours là?
Tout à fait.
Est-ce que on vous a proposé de vous rembourser votre billet?
Non, pas du tout. C'est un message automatique qui nous a donné un numéro avec la seule possibilité donc de le déduire d'un prochain billet. J'ai renvoyé un mail un message électronique pour dire que je n'étais pas d'accord, mais je n'ai pas eu de réponse.
Donc vous avez toujours ce bon à valoir sur un prochain voyage.
Voilà.
Alors Khalid Al-Wardi, qu'est-ce qu'il peut faire?
Alors si jamais sa demande n'est pas satisfaite de conversion de cet avoir en remboursement, il a la possibilité de saisir donc un médiateur pour régler son dossier. Là où il faut faire attention, c'est aussi le cas qu'on a évoqué tout à l'heure, il faut juste voir qui est-ce qui lui fait exactement ce geste commercial, puisque là l'auditeur nous parle de voyagesncf.com, qui n'est pas le transporteur SNCF. Donc peut-être que c'est un geste cumulatif avec ce que donnerait le transporteur.
Ouais. Christian Broucaret de la FNOT.
Oui, une autre précision aussi, c'est que des fois la SNCF, le diable se cache dans les détails, et sur le site internet, quand on y va, il y a une boîte à ouvrir, et puis au lieu d'avoir le remboursement en kilomètres, on peut l'avoir en argent. Mais c'est pas évident, quoi. Il faut quand même bien maîtriser les sites internet de la SNCF.
C'est de l'argent tout de suite et c'est pas un bon à valoir sur un prochain voyage.
Mais il faut ouvrir la bonne boîte au bon endroit et à la bonne heure.
Yves Crozet, économiste des transports. C'est vrai qu'on entend beaucoup dans les réclamations des questions sur, voilà, c'est pas la SNCF, c'est pas TGV, c'est TER, là c'est voyagesncf.com. Est-ce que l'organisation de l'entreprise est trop compliquée?
Il faut d'abord savoir que le secteur est segmenté. Le TGV, c'est du service commercial. Le TER, c'est du service public. Donc, quand un usager du TER paye, par exemple, 10 euros, la collectivité a mis 20 euros de subvention, deux tiers. Et donc, ce qui peut être surprenant, c'est que les usagers se plaignent, mais on a le sentiment que ceux qui sont en responsabilité, les autorités organisatrices, les régions, je trouve qu'ils sont relativement silencieux sur la dégradation du service TER dans beaucoup de régions françaises. C'est pas le cas de toutes.
Que les régions financent.
Voilà, les régions financent à hauteur de deux tiers le coût des TER. Et on sait que bon, les nouveaux présidents de région ont un petit peu tapé du poing sur la table. Mais voilà, il y a de nombreuses années qu'il y a des gros problèmes de régularité, comme viennent de le raconter vos auditeurs. Et qu'on a le sentiment que les autorités régionales sont finalement assez silencieuses.
Yves Crozet, on entend beaucoup et on a beaucoup entendu que la SNCF s'est détournée de son cœur de métier. On a pu lire ça après l'incident de la gare Montparnasse, comme quoi la SNCF ne faisait plus l'entretien de ces lignes. Est-ce que vous confirmez ou pas ?
Non, la SNCF fait toujours l'entretien des lignes, puisque SNCF Réseau, c'est un monopole. Donc le réseau est entretenu par les 55 000 personnes qui travaillent chez SNCF Réseau. Là où on a abandonné le métier, c'est pas parce qu'on l'aurait confié à un secteur privé, c'est que ces métiers-là ont eu du mal à évoluer et que les métiers ne discutent pas entre eux, et que donc il y a tout un retard qui est fait. Le rapport sur la robustesse dit qu'il est indispensable de faire ce qu'on appelle en franglais du benchmarking, c'est-à-dire de regarder quelles sont les pratiques, par exemple pour l'entretien, pour la signalisation dans les pays voisins ou dans les régions de France où ça marche le mieux, pour que petit à petit il y ait un échange entre les différents métiers internes à la SNCF. Et le problème, il est là. C'est l'échange entre les métiers et l'amélioration des performances de ces métiers-là.
Christian Broucaret.
Oui, pour compléter ce que disait M. Crozet, il est évident que d'abord, ce qu'il faut noter aussi, c'est que la panne de la gare Montparnasse, la sécurité a été assurée. Nous, on n'a pas de doute sur la sécurité sur le réseau. Pour les usagers, ça a été une contrainte, ils ont perdu des jours ou des heures de congé. Et pour les usagers du quotidien, ils perdent aussi du temps, parce que là où la SNCF fait l'entretien minimal, ne fait pas d'entretien, ils mettent des ralentissements. C'est-à-dire, par exemple, sur Bordeaux-Nantes, vous allez mettre demi-heure de plus, ce qui est énorme. Voilà, et c'est pour ça que les gens se tournent vers le covoiturage ou vers les autocars Macron.
Mireille est avec nous. Bonsoir, Mireille.
Oui, bonsoir. Je vous remercie de me prendre à l'antenne.
Ah, nous on voulait bien, mais ça a coupé. Mireille une fois, Mireille deux fois. Nous passons à... Non, oui, non, Julien. Julien, ah, bonsoir. Bonsoir, c'est à vous.
Bonsoir, je me demandais si les difficultés que rencontre la SNCF et les complexités de communication entre les différents services sont liées à l'ouverture à la concurrence qu'oblige l'Union européenne. Et également, moi je m'étonnais parce que je prends le train d'un petit village dans le Var, et j'ai été accueilli par je vous remercie d'avoir choisi le réseau SNCF, alors que il y a uniquement des trains SNCF qui s'arrêtent dans cette gare et je n'avais pas le choix.
Oui, vous n'avez pas le choix. Yves Crozet, économiste des transports, est-ce que les problèmes que rencontre la SNCF sont liés à l'ouverture prévue à la concurrence?
Non, puisque cette ouverture, elle sera au plus tôt en 2023, peut-être un tout petit peu avant pour les TGV, mais c'est peu probable. Donc, il s'agit pas du tout d'un système lié aux décisions de l'Europe, puisque dans ce domaine, on est plutôt en retard. Et je précise qu'un pays comme la Grande-Bretagne, qui elle a instauré depuis maintenant une vingtaine d'années la concurrence, si vous regardez une question clé dans le ferroviaire, qui est la question de la sécurité, dans laquelle la France était plutôt en tête de ligne il y a maintenant une vingtaine d'années, eh bien vous apercevez que en ce qui concerne les accidents, heureusement pas tous mortels, on en a aujourd'hui 4 fois plus en France qu'en Grande-Bretagne. Donc cette question, bien sûr, il y en a très peu, hein, le système ferroviaire reste très sûr par rapport à la route, mais le fait qu'il y ait une telle dégradation en termes d'accidents, en termes de collisions de trains, en termes d'erreurs de signalisation, que la France se dégrade autant par rapport aux pays voisins quand on regarde les résultats de l'Agence européenne ferroviaire, on montre bien qu'il y a une dégradation interne au travail de la maison.
France Inter, le téléphone sonne. Vos questions au 01 45 24 7000 ou sur les réseaux sociaux avec le mot-clé Telson.
Et nous avons retrouvé Mireille.
Oui, vous m'entendez là ?
Parfaitement bien, nous vous écoutons.
Donc, je voulais simplement porter à la connaissance des usagers que dans chaque gare, il y a un cahier de réclamation et que chaque usager est en droit de le demander à un agent SNCF, et qui en général n'est pas très content qu'on le demande, et ça oblige la SNCF à une réponse écrite et précise. Et je pense que les gens qui sont en attente pendant 1 heure, 2 heures seraient bien inspirés de le demander. Et que si la SNCF avait 10 000 ou 20 000 questions à répondre, peut-être ça ferait avancer les choses et l'information.
Il faut utiliser un peu plus ce cahier. Vous avez entendu un petit sonore, un petit bruit. C'était Christian Broucaret. Ça vous a fait rire. Vous représentez, je rappelle, la Fédération nationale des associations des usagers des transports. Sur ce cahier, il existe, il n'existe pas ?
Il existe, mais bon, je me moque absolument pas de la dame.
C'est sûr, le fait que ce livre existe, et qu'il y a des réponses,
mais des fois, c'est des réponses un peu standards, un peu bateaux, et qui ne répondent. Et vous savez, même nous, usagers, on est en contact quasiment quotidiennement avec les dirigeants. On voit à certains moments aussi leur désarroi, parce que à certains moments, ils n'ont pas le pouvoir de faire avancer les choses. Mmh. Alors, je suis tout à fait d'accord avec la dame qu'on peut réclamer, et il faut réclamer, hein, il n'y a pas de souci. Les associations de consommateurs et les associations d'usagers sont là, mais c'est extrêmement compliqué de faire bouger un paquebot comme la SNCF.
Vous qui représentez les usagers des transports, il y a ce mail de Bernard qui nous dit « Lors d'une grosse panne comme à Montparnasse, on ne peut pas dire grand-chose aux voyageurs car on ne sait absolument pas combien de temps cela va durer. Que dire alors ?»
Ah oui, tout à fait. C'est sûr qu'une panne, je vous dirais, c'est jamais pareil. Ça peut durer 5 minutes comme ça peut durer 3 jours. Et puis après, il y avait la volonté des agents, de toute façon, de remettre au plus vite et toujours de penser qu'on allait pouvoir le faire. Enfin, le rapport aussi, j'engage votre auditeur à lire ce rapport. Il se rendra compte que la maintenance préventive, c'était quand même quelque chose qui n'était pas essentiel à la SNCF. Alors, je donne un exemple à vos auditeurs. Quand vous regardez un instincteur, il y a une liste et on sait qui a fait quoi à quel moment. Dans le poste là, on savait pas trop. Et ça, c'est quand même très dommageable. Voilà. Et la deuxième chose, c'est que bon, on sent que la SNCF sur certains sujets a quand même un petit peu de retard sur le monde de l'industrie.
Pierre est avec nous. Bonsoir, Pierre.
Oui, bonsoir. Merci de prendre mon intervention parce que moi, c'est plutôt. Je suis plutôt dans l'idée de mettre un petit peu de positif dans tout ça. Moi, je suis un consommateur de SNCF, j'ai envie de dire régulier sur la ligne Saint-Étienne-Paris. Et quand même, ce que je peux dire, je la prends de façon hebdomadaire et ça marche plutôt bien. Donc, c'était pour mettre cette petite note positive et puis pour la mettre un petit peu aussi en lien avec le travail que des cheminots. On a évoqué tout à l'heure le fait que depuis 20 ans, les choses se seraient dégradées. Je pense que c'est pas non plus étranger à la difficulté que les cheminots ont de plus en plus à travailler, et notamment à travailler en équipe, parce que ce qui a une conséquence sur, forcément, sur le sens du travail, sur les responsabilités parfois portent uniquement sur le conducteur pour faire partir un TGV et plus sur une équipe, comme c'était le cas auparavant.
D'accord.
Quand je dis ça, je fais référence à Yves Clos, hein, qui a écrit qui a beaucoup travaillé justement sur le monde des cheminots, et je pense qu'effectivement, il y a peut-être à voir cet aspect-là et à reconsidérer les conditions de travail des cheminots.
Merci.
Je suis pas du tout cheminot, hein.
Non.
Je travaille pas.
Vous n'avez pas besoin de vous justifier. Vous n'avez pas besoin de vous justifier. Yves Crozet va vous répondre. Yves Crozet, économiste des transports. Est-ce qu'on se plaint trop de la SNCF et finalement, par exemple, si on regarde dans le marché, dans la concurrence européenne, c'est une entreprise qui fait bien son travail?
Oui, je crois qu'on ne se plaint pas forcément des bonnes choses. C'est-à-dire qu'on polarise sur des retards qui sont liés à des phénomènes pour partie d'ailleurs externes, quand il y a un incendie ou un orage, et pour partie interne. Et pour reprendre moi aussi la ligne fréquemment entre Lyon et Paris, ouais. Dans l'ensemble, c'est quelque chose qui fonctionne bien et il faut en être satisfait. Et il faut bien savoir que le ferroviaire français est regardé dans beaucoup de pays voisins comme un ferroviaire qui fonctionne bien. Donc il faut bien d'abord partir de cet acquis-là. Ensuite, ce qui est certain, c'est que là où le ferroviaire se dégrade, ce sont les usagers du quotidien. L'autre jour, la ministre des Transports rappelait que les TGV, c'est 1% des déplacements, pas 1% des kilomètres. C'est la moitié des kilomètres qui sont faits en France. Mais c'est seulement 1% des déplacements. Donc 99% des personnes qui se déplacent en train ne se déplacent pas en TGV. Et c'est là que le problème arrive. Je prends juste l'exemple de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Au mois de juin, l'autorité de qualité des services de transport a donné les chiffres récemment. Au mois de juin 2017, vous avez eu 15 000 trains qui ont circulé, donc 500 par jour. Sur ces 500 par jour, eh bien, il y en avait 90 qui étaient en retard et 10 qui étaient supprimés. Et ça reprend exactement ce que disaient vos auditeurs. 90 en retard sur 500, ça veut dire que un jour par semaine, j'arrive en retard au travail et 8 fois par an, je n'arrive pas. Donc, vous voyez, ce sont des petits signes. Donc, le système globalement fonctionne bien, le système est de qualité, mais compte tenu de ce que sont devenus aujourd'hui les emplois du temps des personnes, eh bien, des manques d'irrégularité à hauteur de 15 ou 20%, c'est quelque chose qui n'est plus accepté.
Et c'est un retard, un impact, évidemment, sur l'économie. Julie est avec nous. Bonsoir, Julie.
Bonsoir.
Nous vous écoutons.
Alors, je voudrais que vos intervenants réagissent sur une hypothèse d'ordre politique, qui serait qu'on dégraderait volontairement le service public pour mieux le privatiser par la suite. Peut-être une doctrine du FMI ?
Alors, Christian Broucaret de la FNOT, la Fédération Nationale des Associations des Usagers des Transports. Qu'en pensez-vous ?
Non, sincèrement, je ne le pense pas, parce que de toute façon, le réseau sera toujours le réseau, il restera toujours dans le giron de l'État ou d'une collectivité, et après les trains qui roulent dessus peuvent être d'une entreprise X, Y ou Z, mais le réseau, sous couvert de ce qu'en pense M. Crozet, ça restera toujours dans le giron d'une collectivité, donc ça ne changera rien, c'est pas... Il n'y a pas une théorie du complot.
Yves Crozet, économiste
de
transport.
Il n'y a pas de théorie du complot, et l'idée que on va privatiser le ferroviaire parce que le secteur privé pourrait gagner de l'argent, ça bien sûr ça n'existe pas.
Il y a l'idée souvent de privatiser le ferroviaire pour que ce soit plus efficace. Est-ce que ça c'est vrai? Ça se vérifie ailleurs.
La FNOT a fait une proposition il y a 2 ans extrêmement intéressante en disant on a un certain nombre de lignes ferroviaires en France qui sont relativement peu utilisées et on imagine qu'elles peut-être on pourrait les fermer. Je pense à la ligne Lyon-Paray-le-Monial, et sur cette ligne, si on faisait opérer les trains par un opérateur autre que la SNCF, y compris de sa filiale, par exemple, Keolis, on sait que le coût serait pour la collectivité de 30% inférieur. Donc l'idée, c'est pas de privatiser pour que les capitalistes gagnent de l'argent, c'est d'aller voir un concurrent qui serait capable de faire le même service avec une meilleure qualité pour un coût moindre pour la collectivité. Et donc l'idée, c'est que on pourrait ouvrir à la concurrence non pas les services commerciaux et rentables comme le TGV Paris-Lyon, mais les services qui ne sont pas rentables, dans le but d'améliorer la qualité de service et d'économiser de la dépense publique.
D'accord.
C'est pas du tout privatiser pour enrichir les méchants capitalistes.
Christian Broucaret.
Oui, un complément
de la FNOT, justement. Oui.
Oui. Merci pour
la bonne proposition.
Ouverture des marchés n'est pas privatisation. L'exemple type, c'est le transport urbain. Je vous donne l'exemple de la métropole bordelaise que je connais très bien. Il y a un opérateur qui s'appelle Keolis, qui fait tourner les bus, les bateaux, qui fait tout tourner. L'usager, il paye toujours 30% du prix du billet. C'est la collectivité, c'est la métropole bordelaise qui compense par les impôts et par le versement de transport. Donc, il ne faut pas confondre ouverture des marchés et privatisation. C'est absolument pas le cas. Le transport urbain est clairement le démontre.
Une question par mail de Vincent et peut-être Khalid Elwardi de la médiation Tourisme Voyage pourrait répondre. Les usagers des intercités vont perdre les garanties européennes avec la prise de contrôle des régions en 2020.
Il n'y aurait pas de raison, notamment. Alors, tout dépend de quoi est-ce qu'on parle. Si on est toujours sur la prise en charge de l'indemnité des passagers en retard, non, c'est les usagers des transports, de façon générale, ne perdent pas des droits qui sont acquis au niveau européen.
Et une question de Katia, qui est pour vous aussi. Où peut-on trouver l'adresse du médiateur des transports ?
Sur le site. Alors, aujourd'hui, tout professionnel, donc tout secteur confondu, transport et ailleurs, doit mentionner les coordonnées du médiateur compétent pour gérer ces litiges. Donc, aussi bien le transport que votre charcutier, boucher et garagiste.
Et on retrouve vos coordonnées, évidemment, sur franceinter.fr. Christian Broucaret.
Oui, juste un petit complément. Je crois comprendre ce que dit votre auditrice. C'est qu'il y a certaines lignes, par exemple, en Nouvelle-Aquitaine, il y a 3 lignes intercités qui vont tomber en TER. Alors là, bien sûr, elle va perdre les remboursements qu'il peut y avoir sur les TER, mais c'est pas sur les intercités, mais c'est pas le plus important.
Xavier, bonsoir.
Bonsoir.
Bienvenue au téléphone sonne.
Merci. Oui, je voulais juste témoigner parce que j'étais dans le fameux intercité qui est tombé en panne le 2 juillet. Alors c'était l'inauguration de la ligne Bordeaux-Toulouse et qui a bloqué toute la ligne entre Bordeaux et Marseille.
C'est vous qui avez bloqué la ligne.
Oui, c'est moi. Oui, c'est nous. Non, ce que je voulais dire, c'est que là, c'est l'exemple même d'une bonne initiative de tous les professionnels qui étaient à l'intérieur, les contrôleurs. Ils ont tout de suite fait appel, par exemple, à tous les réservistes de SNCF. Ils ont parlé, ils ont discuté, ils ont expliqué, et ça s'est très bien passé. Pourtant, ça a été une très grosse panne. Moi, je devais être à Avignon à 16h22, je suis arrivé à Montpellier, je me suis arrêté à 20h, et je suis arrivé le lendemain. Mais grâce à ces initiatives, eh bien, ça s'est très très bien passé. Ce que je veux dire par là, c'est que si le personnel fait ce qu'il a à faire, et je crois qu'ils le font, eh bien, ça se passe très bien. Il n'y a pas les angoisses, il n'y a pas les peurs, il calme tout le monde, on est descendu, tout le monde s'y est mis. Tout le monde s'y est mis. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est très important de faire confiance au personnel de la SNCF.
Christian Broucaret. Merci Xavier. Christian Broucaret, c'est pas toujours le cas, le personnel de la SNCF lui-même parfois n'est pas au courant.
Voilà, il y a ça, et puis comme dans n'importe quelle entreprise, il y a des gens qui font très bien leur travail, il y en a un peu moins. Mais pour parler par exemple de Bordeaux, Toulouse, Nice, il est évident que c'est une ligne malade, c'est une ligne qui est une ligne transversale, il y a beaucoup de passages à niveau. La caténaire date d'avant la guerre de 39-45 ou juste après, donc il est évident que le moindre incident, c'est compliqué aussi pour les agents SNCF parce qu'ils ont des zones d'intervention de plus en plus longues. Donc c'est pas simple. L'essentiel, c'est que l'information des usagers soit assurée.
Claire est avec nous. Bonsoir Claire, bienvenue sur France Inter. Bonsoir. Nous vous écoutons.
Merci. J'aurais une question parce que la SNCF prend ses responsabilités pour ce qui est des trains. L'aviation, c'est pareil, les sanctions sont claires. Par contre, en ce qui concerne le trafic routier, les retards, le manque d'informations, on dirait qu'on a libéraliser les bus Macron et plus rien, aucun suivi de la clientèle. Alors pourquoi un régime différent pour les trains et les bus ?
Khalid El-Ouardi, secrétaire général de la Fédération de la médiation tourisme-voyage, pardon, vous répond.
Alors, comme je l'indiquais tout à l'heure, l'ensemble des modes de transport sont régis par une réglementation particulière. Vous avez également un règlement européen qui définit les obligations des transporteurs routiers en cas de retard, d'annulation, etc. Donc, un usager du transport routier dont le transport serait retardé, annulé, a également des droits à indemnisation, à prise en charge. Et ce dédommagement est donc forfaitaire et établi par les règlements européens. Donc il n'y a pas de différence, si ce n'est sur les montants, entre un droit à indemnisation en fonction du type de transport.
Ça vous va, Claire ?
Oui, je pense que Flixbus n'est pas encore à jour à la page, mais je vous remercie pour votre réponse.
Merci. Alors, pardon, allez-y. Alors,
c'est un bon exemple, puisque Flixbus fait partie de nos adhérents. Donc, en tout état de cause, si vous avez un litige non résolu avec ce transporteur, vous pouvez nous saisir pour qu'on puisse s'occuper du dossier.
Voilà Claire pour votre réponse. Étienne est également avec nous au 01 45 24 7000. Bonsoir.
Oui, bonsoir.
Nous vous écoutons. Alors,
oui, moi je témoigne parce que j'avais ma fille qui devait prendre le train dimanche 29 juillet au départ de Massy. On est arrivé, on a vu que en fait tout était bloqué, tout était HS, on n'avait aucune information. On n'avait pas conscience qu'il y avait un gros problème, elle devait aller à Bordeaux. Et la solution qu'on a trouvée, c'était de dire pendant que on voit que notre train est annulé, on va peut-être trouver une autre solution parce qu'il y a d'autres moyens de transport. À côté de Massy, il y a des véhicules qui vont vers Bordeaux, il y a des, y a des avions qui partent d'Orly, il y a peut-être d'autres avions. Donc avec le téléphone, on a cherché d'autres solutions, on en a trouvé, donc j'ai pu faire partir ma fille qui est arrivée à Bordeaux avec du retard, mais in fine. Et la réflexion était de dire, ben, on aurait peut-être pu aider aussi le personnel sur place, qui était lui-même désemparé, en indiquant aux gens, finalement, d'autres solutions de report.
Donc vous avez eu une idée pour aider tout le monde.
Oui, en fait, ce que je me dis, c'est ce serait peut-être intéressant que dans ce cas-là, les gens de la SNCF suggèrent aux gens de voir, proposent des solutions de report sur d'autres modes de transport. Voilà, le train ne marche pas, ben, y a plein de voitures qui vont à Bordeaux, il y a plein de voitures qui vont à Nantes pendant
peut-être
ce temps-là.
Peut-être via une application.
Via une application, ça peut être, ils ont une filiale Ouibus, il y avait peut-être des places libres dans des Ouibus, enfin, voilà, donc trouver une solution pour que on aide les gens à finalement pouvoir poursuivre leur voyage, pour ceux qui ont vraiment besoin de partir. Et je pense que ça rendrait les gens beaucoup plus sereins.
Christian Broucaret va vous répondre de la Fédération nationale des associations des usagers des transports.
Dans la généralité, le témoignage est flagrant parce que ce qu'il faut voir aujourd'hui, c'est que la SNCF, elle a une concurrence. Elle a une concurrence avec le covoiturage, elle a une concurrence avec les autocars Macron, elle a une concurrence avec les avions sur le, par rapport au TGV, ça c'est clair et net. Et aujourd'hui, la SNCF, elle a une culture usagée, c'est-à-dire quelqu'un qui est un peu captif. Et au jour d'aujourd'hui, le paquebot SNCF, il doit tourner vers une culture client, parce que le client, il a le choix. Votre auditeur l'a clairement exprimé.
Vous pensez la même chose, Yves Crozet, on est devenu, va vers une entreprise qui est essentiellement commerciale.
Non, je pense qu'il faut quand même relativiser en faisant une petite comparaison avec les autoroutes. Quand une autoroute est bouchée et que tout le monde sort de l'autoroute pour aller sur la nationale, c'est bouché aussi. Parce que le débit potentiel sur la nationale, il est très inférieur au débit de l'autoroute. C'est d'ailleurs pour ça qu'en général, on garde les voitures sur l'autoroute, on les fait pas sortir. Je vous signale simplement qu'une rame TGV de 1000 personnes, c'est 5 Airbus A320. Donc, si une personne ou deux assez malines peut quitter la gare Montparnasse et très vite aller à Orly pour prendre une place dans un avion, s'il en reste le 29 juillet, vous prenez 1000 personnes et vous les emmenez à Orly, il n'y a pas 5 Airbus disponibles pour les emmener à Toulouse ou à Bordeaux. Donc, on est dans des systèmes massifiés où vous avez des milliers de personnes, et ces milliers de personnes, on peut pas les reporter comme ça rapidement. C'est des choses qu'on peut faire sur un TER quand il est en panne. On fait venir un autocar, c'est 30, c'est 40 personnes. Ça fonctionne bien, et d'ailleurs la SNCF le fait. Mais quand on est sur des grandes masses, comme dans le cas de la gare Montparnasse, de fait, tout le monde est coincé.
Yves Crozet, une question de Madeleine par mail. Pourquoi la SNCF s'entête-t-elle à fabriquer des TGV toujours plus rapides et donc des lignes toujours plus chères à construire et à entretenir au lieu d'améliorer les services déjà existants mais trop défaillants?
Alors d'abord, ce n'est pas la SNCF qui s'entête à faire des lignes TGV, ce sont les hommes politiques. Puisque y compris la ligne Paris-Bordeaux, c'est quelque chose qui a été voulu. On a lancé en même temps 4 lignes TGV en 2010-2011. J'étais au conseil d'administration de Réseau Ferré de France et je le sais très bien. Et donc ce sont d'abord les politiques. Et encore récemment, ce sont les politiques. C'est Monsieur Hollande qui voulait faire un TGV jusqu'à Limoges. C'est Monsieur Vidalis, le ministre président des Transports, qui promettait le TGV jusqu'à Toulouse. Et c'est le patron de la SNCF qui a dit à la radio, non, il ne faut pas faire Bordeaux-Toulouse, en tout cas pas dans les années qui viennent, parce que de toute façon, on ne sait pas faire financièrement.
Merci beaucoup Yves Crozet en direct de Lyon et merci à Claire Vuillot pour le duplex depuis les bureaux de France Inter à Lyon. Khalid El-Ouardi, secrétaire général de la médiation Tourisme Voyage, et Christian Broucaret de la FNOT. Il est 20h.